OK, la session du soir. Après la récréation, après un bon temps de louange. Alors, je comprends, je sais c'est quoi. Enfin, je vais essayer de garder ça, mais très animé. OK. Ah non, ça va. OK. Nous voulons voir Jésus élevé. On a parlé de quel ami fidèle et tendre qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Victoire. Il nous donne la victoire. C'est ça que c'est. Nous donne la victoire. Oui. Nous voulons voir Jésus élevé. Alors Jésus appelle les 12 pour être avec lui, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec l'autorité de chasser les mauvais esprits, dire oh non, on ne parlera pas de ça. Trois mouvements, ou bien deux avec une qualification, je ne suis pas sûr. Pour être Jésus qui sera élevé à travers vous, nous. Ce n'est pas une émission à la télé, ce n'est pas quelque chose que nous allons voir comme spectateurs, c'est quelque chose dans lequel nous allons participer ou bien ben Dieu peut susciter n'importe qui, n'importe quand, mais il nous appelle, il nous invite dans la joie de participer à l'expérience de voir Jésus élevé. Il nous appelle à vivre nos vies avec lui. Ça veut dire tous les aspects de nos vies. C'est une découverte. C'est une découverte. Après plusieurs années, vous dites, oui, plusieurs années, que pour moi, de cheminement avec Dieu, et je découvre encore ce que c'est de me confier. Maintenant, là, avec vous. Avec lui, il nous envoie proclamer la bonne nouvelle. Parfois, il y a un discours qui dit que si on met trop d'emphase sur le fait de vouloir vivre avec Jésus, soit sur le plan individuel ou sur le plan communautaire, ça va nous empêcher d'aller vers les autres. Vous avez déjà entendu ça? Comme si on met trop d'emphase sur la formation des disciples, on ne mettra pas d'emphase sur l'évangélisation. Là, je dis dans un langage qui est plus ecclésial. Vous avez déjà entendu ça? Je suis tout à fait en désaccord avec ça. Comment vraiment vivre avec celui qui s'est donné pour le monde et ne pas avoir à cœur ce que lui, il a à cœur. Donc le problème n'est pas trop d'accent sur la formation de disciples. Le vrai problème, c'est qu'on ne vit pas comme disciples. Si nous sommes vraiment en train de vivre avec Jésus, il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre notre foi ouvertement, selon nos personnalités, selon les dons qu'on a. Avec Jésus, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec l'autorité, avec de l'autorité. Sans parler de tout ce que ça peut impliquer dans le contexte actuel, ça doit au moins, je vous propose, être une démonstration de la réalité de la puissance de Dieu dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il n'y a pas de modèle de proclamation du royaume dans la Bible qui ne contient pas volet, démonstration. Le royaume de Dieu qui s'exprime dans la puissance, ça implique un parcours où la guérison se reflète dans nos vies, où nos communautés deviennent des lieux de guérison sur des plans, sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, je dirais même, j'ose, sur le plan physique. C'est-à-dire, de Dieu qui a à cœur nos vies, quand nous sommes en train de le suivre, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura pas de problème physique. Vous comprenez là? Non. Je suis en train de dire que Dieu va nous aider à vivre plus comme les gens qui reçoivent de lui, qui vivent dans nos corps, dans la joie, avec intégrité, et qui nous aide à servir avec les corps qu'il nous donne. Alors, je voulais revenir un peu sur certaines choses de la dernière session. Peut-être, je veux que ce soit clair. On m'a parlé un peu de... Le fait de regarder à Jésus comme modèle n'abaisse pas le niveau de sainteté qu'on doit vivre. Au contraire, ça l'élève. Quand on lit la Bible, Dieu nous ouvre les yeux sur son royaume, une perspective que nous n'avons pas si nous ne sommes pas constamment en train de nous baigner là-dedans. Donc Dieu renouvelle nos visions, notre vision, au-delà même de là où nous sommes maintenant. Je peux voir mon expérience dans la foi, je peux voir mon expérience en Église, et après, je et nous, nous ouvrons la parole de Dieu et nous sommes confrontés avec une vision qui dépasse la nôtre, qui parfois nous encourage, parfois remet en question, parfois nous amène plus loin. Donc la perspective de Dieu est là pour nous aider à mieux vivre. Et je crois que le modèle de Jésus, dans le monde, mais pas du monde, nous avons besoin de revenir constamment là-dessus pour apprendre de lui. Un des textes que j'aime le plus dans la Bible, enfin c'est bizarre, c'est Marc 5. Marc 5, c'est un texte là où il y a un gars là qui est complètement dominé par les esprits mauvais. Toute sa vie, il n'est pas en possession de sa vie du tout. Vous connaissez peut-être l'histoire, mais peut-être que sinon, il faut le lire. Marc 5, c'est merveilleux là. Alors Jésus redonne sa vie à cet homme-là qui était complètement, mais il n'avait pas de relation avec personne, il se faisait mal, il n'était même pas en contrôle de son corps. Jésus lui redonne tout cela. Et Jésus est sur le point de quitter les lieux. Jésus est venu à la rencontre de cet homme-là, et les autres évangiles nous disent qu'il y avait un autre homme aussi qui était un peu dans la même situation, j'imagine, je ne sais pas. Alors Jésus, il libère cet homme-là et après il va s'en aller. Mais mettez-vous dans la place de ce gars-là. Quelqu'un vient de te redonner ta vie juste parce qu'il a fait, par sa présence, par son autorité. Et là, il s'en va. Alors le gars, il dit, « Hey, j'embarque avec toi là, moi. Moi, je reste avec toi. Je reste avec toi. » Jésus dit la chose qui est vraiment surprenante. Il dit non. Il dit non. Imagine ce qu'on peut ressentir avec tout ce qu'on est. Celui qui vient de nous libérer s'en va. Je veux juste rester avec toi. Non, reste ici. Reste ici. Tu peux rester ici. Jésus dit, tu peux rester ici. Ce que j'ai fait dans ta vie là, cette libération que je te donne, c'est réel. C'est substantiel. C'est concret. Ça ne disparaîtra pas. Je t'ai libéré. Tu n'as pas besoin de rester dans la barque avec moi. Et après, il lui dit, retourne chez toi, dans ta famille. Raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, Décapole si vous voulez, tout ce que Jésus avait fait pour lui. OK, vous pouvez imaginer ce gars-là, encore, qui a vécu des années séparé de sa famille. Peut-être on ne savait même pas ce qui se passait dans sa vie. On dit, ah, où est-ce qu'il est ton fils? Ah, il est comme mort. On ne le reconnaît plus. Je ne sais pas, probablement, est-ce que sa famille savait même où il était? On ne sait pas. Comment il s'est rendu comme ça? Ça, on ne le sait pas. Jésus dit, retourne chez toi. Mais vous pouvez imaginer quand il se présente à la maison. Et ses parents le voient, ou bien ses frères, ses sœurs le voient. C'est comme, mais est-ce possible? Mais non. Puis après, on dit, mais c'est lui. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Je raconte. Ça dit que même dans le Décapole, dans toute cette région-là, Jésus n'a pas passé beaucoup de temps. Celui qui a proclamé la bonne nouvelle dans ce coin-là, c'était cet homme-là qui n'avait même pas de vie avant. Dieu lui redonne tout. Il devient la personne qui proclame. OK. Modèle. Vous dites, mais ma vie n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. Mais ce que Jésus lui dit s'applique à nous tous. Retourne chez toi, dans ta famille, des gens qui te connaissent. Raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dont sa bonté. Ça, nous pouvons tous faire ça. Réfléchis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans sa bonté? Comment il exprime sa grâce dans ta vie? Il dit, ah, je viens d'une famille chrétienne. Ça fait partie de ça? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans sa bonté? Tout le monde peut faire ça. On peut faire ça avec les gens autour de nous. De vivre de manière à dire, Dieu me fait du bien. Dieu m'aide. OK, encore pour moi, c'est juste une image. C'est juste une fenêtre sur ce que c'est de vivre sa foi dans le monde. Et en commençant par les gens qui sont autour de nous. J'ai un voisin qui est syrien. Il habite l'autre bord du boulevard. Il m'aide à déneiger mon entrée parfois. Parfois, on va prendre un café ensemble. Il est druze, de religion, culture druze. Parce que c'est vraiment spécial. Ils sont très minoritaires, même en Syrie. Une communauté fière, là. Fière de leur culture. Pas tellement une foi, c'est plus une culture, mais on commence à échanger plus ensemble. J'ai pris pour eux. Patricia donne des cours d'anglais à leur fille Yara. Et nous prions pour eux. Et notre désir, c'est de pouvoir exprimer envers cette famille-là l'amour de Dieu, la vérité de Dieu. Parfois, quand on prend un café ensemble, on parle de toutes sortes de choses, l'économie, la culture, toutes sortes de choses. Et nous avons parlé aussi de la bonne nouvelle. C'était une joie de faire ça. Mais j'espère encore pour moi, ce n'est pas facile. Nous, on est depuis 10 ans dans la maison, on reste maintenant. Et vous serez surpris de savoir qu'on n'a pas amené au Seigneur tous nos voisins encore. Okay? Même il n'y en a pas. Il y a quelques-uns qui sont venus à l'église une fois. Mais après, ils sont déménagés. Mais nous continuons à prier pour nos voisins et de chercher à leur dire comment Dieu nous a fait du bien. OK. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de parler non pas tellement sur le plan individuel, mais sur le plan communautaire. Dans le monde, pas du monde, ensemble. Ça va? OK? On va essayer ça? OK? Jean 17, vous êtes d'accord avec moi encore que quand on lit ce chapitre-là, on ne peut pas lire le chapitre et contourner l'aspect communautaire. OK, d'accord. Alors, si cela est vrai, donc ce que je vais dire, au moins, ça connecte avec le chapitre. Donc, on va parler de l'apport et de l'impact de ce que nous vivons en Église. Et je suis conscient qu'on vit toutes sortes de choses en Église. Peut-être qu'on n'est même pas en Église maintenant. On disait, j'ai pas d'Église, moi. Ou peut-être qu'on vit quelque chose de merveilleux en communauté. Encore, je ne sais pas. Présentement, je suis dans un temps dans ma vie où j'ai jamais vécu une expérience aussi riche que celle que je vis maintenant en Église. Et ça, ça n'a rien contre ce qu'on a vécu avant. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant et c'est très, très riche. C'est une joie de vivre ça. Donc, c'est quoi une Église? Une Église, c'est une communauté de personnes qui grandissent dans la foi et qui cherchent ensemble à vivre l'expérience dans le monde, mais pas du monde, avec Jésus. Est-ce que ça, cette définition-là, vous l'acceptez? OK? C'est parce qu'elle est, dans un sens, elle est radicale. L'Église, une communauté de personnes qui, par la foi, désirent suivre Jésus ensemble, donc qui cherchent à vivre la réalité de ce que c'est d'être dans le monde, mais pas du monde, vous dites que c'est correct. Vous êtes toujours là. Bon, c'est bon. OK. OK. J'aimerais parler de quelques éléments. Si cette définition de l'Église, on y croit, c'est révolutionnaire. Je vous propose, c'est révolutionnaire. L'Église n'est pas d'abord un lieu de ressourcement. OK? L'Église n'est pas d'abord un lieu de ressourcement. Si vous êtes d'accord avec la définition que je viens de donner. Parce que la définition dit que l'Église est une communauté de personnes qui, par la foi, cherchent à suivre Jésus ensemble. Donc, ce n'est pas un lieu de service où je vais pour tout simplement trouver de l'encouragement. C'est des gens avec qui je vis l'expérience de suivre Jésus. Il y a quand même une différence entre les deux. Si, par exemple, je vois l'Église comme un lieu de ressourcement, là, je vais chercher une certaine qualité de produits. Est-ce que j'aime les messages? Quels sont les programmes? Est-ce que j'aime l'édifice? Est-ce que j'aime la louange? Donc, c'est un produit. Mais si je dis « c'est ma communauté » ou « je m'engage à suivre Jésus avec ces gens-là », ils peuvent être 30 comme ils peuvent être 200, comme ils peuvent être à Nouvelle Vie légèrement plus nombreux que 200. disons. Mais ça change vraiment notre attente même. Ça change ma façon de voir ma propre vie en Église. Dans le monde, mais pas du monde, dans la louange. Dans le monde, mais pas du monde, louange. Louange, hein, c'est tellement... Ah, c'était riche, là, ce qu'on vient de vivre. des expressions qui viennent de ce que nous sommes, des expressions qui sont vraiment variées. Même la musique country peut, je le dis par la foi, peut être utilisée pour louer Dieu. C'est un miracle. Mais c'est possible, je crois, c'est possible. Il y en a qui disent non, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais vous proposer que une expérience de louange qui reflète la réalité de ce que Jésus dit dans le monde, mais pas du monde, n'est pas une évasion, n'est pas une façon de fuir la vie. OK? Je sais que je peux vous perdre, mais j'espère que non. La louange n'est pas une façon de fuir la vie. C'est une façon de nous approcher du Dieu de toute la vie, tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, parfois, moi, et là, ça va être très personnel, je me demande si le langage que j'utilise dans les chants de louange est comme un langage à part, un langage que je n'utilise jamais, sauf que quand je m'adresse à Dieu, je me demande, est-ce que ma louange est connectée à ma réalité? Vraiment, est-ce que je suis présent? Ou est-ce qu'une façon de... C'est comme une vie parallèle. Ça, c'est pourquoi j'ai à cœur, et je vous l'ai dit là, et je pense que vous êtes des personnes très bien placées pour ça, qu'il y ait des expressions, des compositions, des arrangements qui viennent de nous, de notre foi, de notre parcours, aujourd'hui, dans notre langage, selon ce que nous sommes. Encore, j'ai rien contre le fait qu'il y a une richesse qu'on importe. Mais qu'est-ce qui sort de nos propres vies? Sur le plan artistique, sur le plan de la composition de nos chants. Donc, je vous encourage. Peut-être que vous dites, mais moi, j'ai des idées. Moi, il y a des choses que j'aimerais voir. Il y a des choses que je peux écrire moi. Essayez. Ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile. C'est difficile. C'est surtout difficile quand on a quelque chose et on arrive au point de vouloir le partager. Là, on est comme, qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont recevoir ça? Moi, je suis tellement timide sur ce plan-là que si j'ai quelque chose que j'ai composé, je ne le dis pas. Je peux même le faire. Je peux présenter le chant, mais je ne dis pas que... Je présente le chant comme si c'était une autre personne. Parce que là, j'ai dit, au moins, ils ne diront pas, « Oh, c'est juste David qui fait ça. » Oui. Parce que je suis timide, je dis, « Bah. » Mais ce que je vais vous dire, là, vous, encore, ça peut être même sur le plan instrumental, ce que nous sommes, de voir ça intégré dans notre louange. Ce que Dieu est en train de former dans nos propres vies, dans le monde, et tout ce qui nous entoure se reflète dans notre façon de louer. Notre personnalité. OK, voilà. Ça, c'est une chose. À partir de notre expérience avec Jésus dans le monde, vient notre expression de louange. C'est simple. C'est merveilleux aussi, en même temps. Quand ça arrive, c'est ça. Je pense que dans le contexte québécois maintenant, c'est vraiment un besoin. Et c'est pas que la capacité n'est pas là. C'est que parfois, on pense qu'on n'y pense même pas. On vit avec ce qu'on a. Au lieu de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut apporter? OK. Une expérience communautaire dans le monde et pas du monde avec Jésus doit, je crois, dans le contexte actuel, comprendre un changement par rapport à nos relations les uns avec les autres. Même si on parle de l'expression de la puissance de Dieu, la présence du royaume de Dieu, ça doit se refléter dans nos relations les uns avec les autres. Là, tout le monde est comme, oui, 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 OK. Je vous donne un exemple. Vous connaissez le concept de confession. Si vous confessez vos fautes, Dieu est fidèle, il va vous pardonner, vous purifier de toute faute, de tout péché. Ça va? 1 Jean? OK. D'accord. C'est quoi le mot confession en grec? C'est vraiment un mot intriguant. On dit homologeo. Enfin, je confesse. C'est homo, même chose, comme homosexuel, voilà. Homologeo, je dis la même chose. Donc, si par exemple Boris me dit, David, il me semble que, tu sais, quand tu t'habilles comme ça, c'est pas sérieux pour le ministère. Okay? Si par exemple, s'il me disait ça, il ne le dit pas, tu ne l'as pas dit, hein? Et moi, je dis, tu as raison, j'accepte. Dans un sens, je confesse que Boris, il a bien dit. Quand je confesse mes fautes, je me mets d'accord avec Dieu qui me dit que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin de son pardon. Je me dis en accord avec sa vision de ma vie. Parce que parfois, là, si on parle vraiment du péché, on est comme, est-ce que j'y crois vraiment? Que vraiment, j'ai besoin du pardon? Dieu le dit. Les autres me le disent. Okay? Est-ce que moi, je fais mon possible? Est-ce que vraiment, là, j'ai besoin d'être pardonné? Aidé, peut-être, un peu, mais pardonné. Dieu me dit ça. Il dit, David, il y a quelque chose de désaxé dans ta vie. Tu es centré sur toi-même. Quand même. Je suis un bon gars, là, moi. N'est-ce pas? Oui. OK. Merci. Je peux être un bon gars et très égoïste en même temps. Ça marche, ça. C'est diplomatique. Je suis comme ça. Capable d'être très centré sur moi-même et très gentil en même temps. Je travaille, tu sais, ça prend des années pour développer ça, là. Oui. Et Dieu me dit, tu es comme ça. Veux-tu vivre avec moi? Veux-tu accepter mon pardon? Veux-tu vivre autrement? Je confesse, je dis, tu as raison, tu vois bien. Je suis comme ça. Dans les alcooliques anonymes, au début d'une rencontre, si jamais vous avez l'occasion d'être invité à une rencontre des alcooliques anonymes, dites oui. Dites oui. Allez. Au début de la rencontre, on va se présenter. Bonsoir, je m'appelle David, je suis alcoolique. Et vous dites? Merci. Oui. Oui, merci. Okay. Bonsoir, je m'appelle David, je suis alcoolique. Bonsoir, David. Bon, okay. Bonsoir, je m'appelle David, je suis pêcheur. Okay. Dans le groupe, tout le monde dit la même chose. Ou on ne parle pas. Dans le sens, on peut être là comme spectateur ou on se dit. La confession, selon Jacques 5, n'est pas juste quelque chose qu'on vit devant Dieu, c'est quelque chose qu'on vit les uns devant les autres. Vous connaissez le texte? Confessez donc vos péché les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Parfois, on va limiter ce texte-là à la simple application d'une expérience de guérison physique. C'est légitime et le contexte aussi nous donne raison. C'est-à-dire, il y a une connexion entre la maladie et ce texte-là, mais je vous propose que ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que la confession, c'est une façon de vivre. Donc, ce n'est pas juste des moments ponctuels où il y a crise dans ta vie et tu dis, j'ai mal fait. Je me confesse. Mon attitude n'était pas bonne. Je le dis. Pouvez-vous me pardonner? Mais la confession, c'est une façon de vivre où on se dit. La capacité et la liberté de se dire. Voilà qui je suis. Donc, je suis en communauté avec vous, des gens qui sont appelés à suivre Jésus, à le connaître dans le monde. Nous sommes en train de cheminer ensemble. Est-ce que notre expérience nous permet de nous confesser? Et peut-être qu'on a une image là. Si on est catholique, c'est peut-être OK, on va aller voir le prêtre. Hein? Mais non. Est-ce que notre expérience ensemble nous amène à être des personnes qui sont capables de se dire? Ou non? Parce que l'opposé, c'est d'être ensemble sans être capable de vraiment être honnête. Et on fait semblant constamment. On vit une sorte de solitude basée sur une attente de performance. Ça se vit dans le monde constamment. On ne dit pas ce qu'on vit vraiment, ce qu'on pense vraiment, on manœuvre. On se positionne constamment parce qu'on a peur. En fait, c'est l'amour qui nous libère, hein? C'est la grâce qui nous libère de nous confesser devant Dieu. Tu dis, je me suis donné pour toi. Tu peux te dire, je ne te rejetterai pas. Dieu dit, je me suis donné pour toi. Tu peux te dire, vas-y David, dis qui tu es. Et l'amour aussi et la grâce nous permettent de nous dire les uns aux autres. Et je vous dis que c'est normal. C'est normal. Et vous dites, sur quelle planète c'est normal de faire ça? Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu nous appelle à ça. Quand on vit comme ça, sachant notre façon de prier les uns pour les autres, et dans cette prière, qui est plus riche, qui est enracinée dans notre vraie expérience, Dieu utilise ça pour nous guérir. Maintenant, on revient sur notre thème, dans le monde, mais pas du monde. Imaginons que nous sommes en train de vivre ça. Juste un peu. On se sent moins seul. Nous sommes plus en confiance. Nous sommes plus libres de dire, voilà qui je suis. Je vous propose que ça va déborder dans notre façon de vivre avec les autres. Donc, les non-croyants, si je peux utiliser un terme comme ça autour de nous, les gens qui ne connaissent pas Dieu, peuvent voir quelqu'un qui est capable d'être honnête. Quelqu'un qui dit, voilà qui je suis. Dieu m'aide. Ou peut-être ils vont dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus à l'aise ou tu ne mens pas. Je peux te dire ce que je vis parce que j'ai confiance. Ça devient une façon d'aller vers le fait de proclamer la bonne nouvelle. c'est une marque de la présence de Dieu dans nos vies. Alors, je vous propose que, dans le contexte dans lequel on vit, d'accepter ou même de vouloir vivre ça, fait de nous des gens qui sont mieux placés pour gagner les gens autour de nous. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Comment? À travers ce qu'il est en train de faire dans nos vies. L'Esprit de Dieu va agir, mais il va agir aussi en nous. Et il va agir en nous, non pas juste sur le plan individuel, mais sur ce que nous vivons ensemble. Je vois ça. Patricia et moi, on vit, je ne peux pas dire que, on vit dans les contextes qui encouragent ça depuis plus que 20 ans. Je ne peux pas maintenant imaginer, vraiment là, je ne peux pas imaginer ma vie sans ça. C'est sûr que peut-être que ça commence même si on est couple marié, si on a déjà avec ses amis. On commence là. Parce que parfois, même si on est entre amis, on ne vit pas ça. OK. Une autre chose que je veux dire par rapport à l'aspect communautaire, d'être ensemble avec Jésus dans le monde, c'est par rapport au service. Donc, ce que je veux vous proposer, et peut-être qu'encore vous êtes déjà là, j'espère, c'est une attitude de service qui nous amène à servir avec les gens de notre milieu. C'est pas une faute, je pense. C'est de servir avec les gens dans notre milieu. On va s'organiser entre chrétiens, on va faire des choses pour les gens de notre milieu. Ça, c'est peut-être bon, mais je ne parle pas de ça. Si vous faites ça, déjà, super. Mais je pense que si nous sommes dans le monde comme Jésus était dans le monde, encore, on ne sera pas, notre relation avec les gens ne sera pas d'abord fonctionnelle. Je vais faire quelque chose pour toi. L'incarnation, la présence de Jésus avec nous, nous met au même niveau que les gens autour de nous. Donc, l'idée, et ça coûte moins cher aussi, c'est ce qui est... On va chercher qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous, sur le campus, par exemple. Qu'est-ce qui se passe de valable, des organismes qui sont là, qui sont en train de faire quelque chose qui a de l'allure? Est-ce que nous, on peut tout simplement se présenter et dire, est-ce qu'on peut aider? Pas juste une fois, là. Non. Est-ce qu'on peut aider et rester avec vous? Est-ce que c'est l'idée, ça va? Donc, un organisme, par exemple, sur le campus, pour nous, c'est pas sur le campus, c'est à Terrebonne. Comme, par exemple, il y a une maison qui s'appelle, maison d'accueil qui s'appelle la Hutte. Hébergement d'urgence de Terrebonne, la Hutte. Okay. Nous, on s'est présenté là. Quand on est arrivé, le directeur de la place nous a dit « Pourquoi vous êtes là ?» Parce qu'il savait qu'on était une église évangélique, c'est pire là. Une église évangélique, aïe aïe. Okay. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous ? Il dit « Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Pourquoi vous êtes là ?» Vous avez un angle là. Okay. Et on va préparer notre réponse. On a dit, enfin, ce que nous voulons faire, parce qu'à la mairie, on a dit que ce que vous faites, c'est important dans notre milieu ici. Donc, si c'est vrai, on n'a pas dit si c'est vrai, on a dit, on nous dit ça, alors nous voulons mieux comprendre le milieu en vous accompagnant dans ce que vous faites. Et nous voulons rester en relation avec vous. C'est ça que vous voulez faire? Oui, c'est ça qu'on veut. Est-ce que vous permettez? jeune directeur, il dit, un peu avec un peu d'hésitation, « OK. » On a abordé un autre organisme de la ville de Terrebonne, on a présenté la même chose. La femme qui était directrice des œuvres de Galilée nous a dit, « Ben non. » Ben non, vous êtes une église évangélique, je ne veux pas de vous. Oui, mais c'est compréhensible. Parce que l'image qu'on projette, c'est si nous on est là, c'est à cause de nos propres intérêts. C'est parce qu'on veut quelque chose d'eux. On veut les embarquer, moi je parle de leur langage, dans notre affaire. C'est la seule raison qui nous amène là. On ne veut pas vraiment aider. Elle nous a dit non. On avait besoin de ça. On vit un projet avec la hutte qui dépasse même nos attentes. Ça nous étonne. Dieu a préparé un truc là. C'était vraiment un impact monstre. On avait 35 personnes sur le terrain de la maison, la hutte, pendant 4-5 jours. Ça fait des ravages. C'est, ça change. À l'intérieur de la maison, autour de la maison. Tous les gens qui sont dans le communautaire, là, ils se parlent. Ils sont en réseau. Ils se connaissent. Bla, 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 ils placotent. Hein, tu sais. Hey, tu sais, ce qui se passait là, là, c'était quoi cette affaire-là? Puis la dame qui était aux œuvres de Galilée a dit, mais là, j'ai dit non. J'ai dit non. Elle nous a rappelé. Elle nous a rappelé. Il dit, ah, peut-être que, tu sais. L'intersection, c'est une petite église. Dimanche matin, 50, 60 personnes, 70. Gros dimanche, là, 80, là, c'est vraiment pouf. Okay. Petite église. Pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent à donner. On se donne. On se donne. Savez-vous que dans la ville de Terrebonne, l'église évangélique est la plus connue? Non. Pas des gens de la ville. C'est l'intersection. Et je ne dis pas, c'est frustrant de dire ça. Parce que l'église de Terrebonne-Mascouche, je connais Mathieu Giguère, je l'apprécie énormément. Ouais. Et, enfin, Louis Bourque, mais Mathieu est le pasteur responsable maintenant. C'est ce qui est vraiment le fun. Louis, c'était le fun aussi. Mais c'est bon de voir un jeune gars là, qui devient leader de cette église. Tout cela, là, vous êtes comme, OK. OK? Moi, je vais me perdre là, un peu là-dedans. Mais je peux... OK. Mais même Mathieu et moi, on en parle. Il dit, c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de vivre, mais nous, on n'arrive pas. Parce qu'ils ne sont pas capables, jusqu'ici, tout simplement de se donner comme ça. Ils ont les moyens de créer leur propre programme. Ils le font. Ils font de quoi pour les gens de Terrebonne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on est avec les gens, une fois, et après je vais arrêter d'en parler, mais c'est important, je crois, la directrice de la hutte, si on livre, on partage du café avec eux parce que notre fils travaille pour une société de torréfaction, c'est vraiment bon. OK? Mais nous donne des sacs de café, là, ça vaut 100 pièces, là, le sac. Parce que c'est vraiment un café de qualité, là. Puis, parfois, eux autres, ils jetaient ça avant. Paf, comme ça, là. C'est... Ouais. Maintenant, on récupère et on le donne. Maintenant, ils nous voient arriver à la hutte, là. Tu sais, j'ai même pas besoin de dire un mot, là. Débarque de char avec le sac, là. On ouvre la porte, dit merci. Ils savent c'est quoi. Bon. OK? Mais à un moment donné, Estelle, la directrice de la place, là, j'arrive pour livrer du café. Puis elle dit, veux-tu venir dans mon bureau? OK? Moi, quand j'étais à l'école, là. Veux-tu venir dans le bureau? Non. Non, ça m'est déjà arrivé, puis on annonce ton nom dans toute l'école, là, c'est pas le fun. Là, c'est, hein? Mais là, elle dit, viens dans mon bureau, je veux te parler. Okay? Je m'assieds, elle dit, Estelle n'est pas chrétienne, là, elle n'est pas croyante. On a déjà prié avec elle, mais c'était vraiment par politesse qu'elle nous a laissé faire. Mais elle dit, vous là, je veux que vous compreniez, elle dit, vous là, il me semble que votre foi là, ça s'exprime dans votre façon de vivre. Elle m'a dit ça. J'étais très comme cool. Là, j'ai dit, il me semble que c'est le genre de foi qu'on, ça vaut quelque chose, non? C'est le genre de foi qu'on veut vivre, non? Puis après, j'étais comme, gloire à Dieu. Ah, c'est bon, c'est vraiment bon. Hein. Que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu me dit que la foi qu'elle voit, elle est connectée à la vraie vie. OK? Essayez. Faites-le. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas un sou. Ça va vous coûter du temps. Si vous voulez le voir comme ça, moi, je ne peux même pas le voir comme ça. Mais si vous voulez, hein? L'évangile qui s'exprime dans l'attitude de service avec les gens, avec, au même niveau, avec eux. Je suis présentement sur le CA d'une maison qui s'appelle les Diapasons. On m'a demandé, c'est une joie de, tu sais, cette maison-là, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'ils savent que je suis pasteur. La politique par rapport à la sexualité dans cette maison-là, ouverture grande, grande, grande ouverture. L'idée que moi, je dise que un style de vie hétérosexuel avec les relations en dehors du mariage, c'est déjà pas ce que Dieu veut. Vous attendiez autre chose. Hein? Ou bien, un style de vie homosexuel que Dieu ne veut pas qu'on vive, ce n'est pas sa volonté. Dans un sens, il pourrait me dire, tu ne seras plus ici. Ou bien, tu vas quitter le CA. C'est impensable, une telle position maintenant. Ou bien mes amies chrétiennes pourraient me dire, qu'est-ce que tu fais là au CA du Diapason? Tu sais, je sais qu'ils voient la vie et la sexualité comme ça. Comment tu fais pour rester là? Je suis là depuis 6 mois, j'apprends. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je remercie Dieu pour la possibilité de contribuer. Et même d'être présent, parce qu'ils savent que ma vie est enracinée dans le message chrétien et dans la relation avec Jésus. Une fois, quelqu'un de cette maison m'a appelé par rapport à une question spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait même se discuter dans le CA. J'étais tellement surpris. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Je ne sais pas. Mais dans le monde, mais pas du monde, en proximité avec Jésus. Si même, je vous espère ce genre d'expérience, que ce soit sur le campus, que ce soit dans nos églises, et de préférence ensemble, et non pas juste sur le plan individuel. On se décide ensemble. On y va. Je pense que c'est presque... Oui, OK. Voilà. C'est enfin des brides par rapport à l'aspect communautaire de dans le monde, mais pas du monde avec Jésus. On prie? Seigneur Jésus, tu t'es donné pour nous, chacun de nous, et tu t'es donné aussi pour ton Église. Pour que le monde voie la réalité de ton amour, de ta vérité, à travers ce que nous sommes en train de vivre ensemble par ta grâce, et nous confessons que nous ne sommes pas là. que nous voyons l'Église même en fonction de nos propres besoins. Nous n'y croyons pas. C'est difficile pour nous de croire vraiment que tu peux travailler, que tu peux te révéler à travers non pas ce que nous, juste ce qu'on vit sur le plan individuel, mais ce qu'on vit ensemble. Nous confessons notre manque de foi, mais aide-nous à répondre, à quelque part, à te dire, à t'exprimer le désir de vivre selon ton appel. C'est complètement au-delà de ce que nous pouvons faire. Donne-nous un cœur pour une louange qui vient de qui est enracinée dans nos propres vies, dans notre propre foi. Donne-nous un cœur de vivre dans la confession les uns avec les autres et dans le service dans notre monde. Que ton esprit nous aide, que ton autorité s'exprime. Au nom de Jésus. Amen.